près dans le bois de Fausse Repose, en bas de la côte de Picardie, un très joli loup adulte aux poils noirs et aux grands yeux rouges. Il se nommait Denis et sa distraction favorite consistait à regarder les voitures venues de Ville d'Avray mettre plein gaz pour aborder la pente luisante sur laquelle inondait plaque parfois le reflet olive des grands arbres. Il aimait aussi, par les soirs d'été, rôder dans les taillis pour y surprendre les amoureux impatients dans leur lutte avec la complication des garnitures élastiques dont s'encombre malheureusement de nos jours l'essentiel de la lingerie. Il observait avec philosophie le résultat de ses efforts parfois couronnés de succès et s'éloignait pudiquement en hochant la tête lorsqu'il arrivait qu'une victime consentante passa, comme on dit, à la casserole. Héritier d'une longue lignée de loups civilisés, Denis se nourrissait d'herbes et de jacinthes bleues, corsées en automne de quelques champignons choisis, et en hiver, bien contre son gré, de bouteilles de lait chippées au gros camion jaune de la société. Il avait le lait en horreur, à cause de son goût de bête, et maudissait de novembre en février l'inclémence d'une saison qui l'obligeait de se gâter l'estomac. Denis vivait en bonne intelligence avec ses voisins, car ils ignoraient, vu sa discrétion, qu'il existât. Il s'abritait dans une petite caverne creusée bien des années plus tôt par un chercheur d'or. Denis s'était aménagé là une retraite confortable, garnie au fil des années d'enjoliveurs, de roues, d'écrous, de pièces automobiles ramassées. Par lui, sur la route, où survenaient des accidents fréquents. Passionné de mécanique, il aimait à contempler ses trophées et rêvait à l'atelier qu'il montrait certainement un jour. Quatre bielles d'alliage léger soutenaient un couvercle de mâle utilisé en guise de table. Le lit se composait des sièges en cuir d'une vieille Amilcar et prise passagèrement d'un gros platane costaud. Et deux pneus constituaient des cadres luxueux pour le portrait de parents longtemps chéris. Le tout se mariait avec goût aux pièces plus banales rassemblées jadis par le prospecteur. Par une belle soirée d'août, Denis faisait à petits pas sa promenade de digestion quotidienne. La pleine lune travaillait les feuilles en dentelle d'ombre et sous la lumière nette, les yeux de Denis prenaient les suaves reflets rubis du vin d'Arbois. Denis approchait du chêne, terminus ordinaire de sa marche, lorsque la fatalité mit sur son chemin le mage du Siam, dont le vrai nom s'écrivait Étienne Pample, Pample, P-A-M-P-L-E, et il était accompagné de la petite Lisette Cachou, Cachou, C-H-E-U. Brune serveuse du restaurant Greneuil, entraînée à Fausse Repose par le mage sous un fallacieux prétexte. Lisette traînait une gaine Obsession, flambant neuve. Et c'est à ce détail, dont la destruction avait coûté 6 heures d'efforts au mage de Siam, que Denis devait cette très d'artive rencontre. Par malheur pour Denis, les circonstances se trouvaient extrêmement défavorables. Il était minuit juste. Le mage de Siam avait les nerfs en pelote et, rendu furieux par l'apparition de Denis, pourtant discret, et qui déjà s'éloignait en marmottant une excuse, c'est pas moi. Le mage de Siam, déçu par Lisette et dont l'excès d'énergie demandait à se décharger d'une façon ou de l'autre, se jeta sur l'innocente bête et le mordit cruellement au défaut de l'épaule. Avec un glapissement d'angoisse, Denis s'enfuit au galop. Rentré chez lui, il fut terrassé par une fatigue anormale et s'endormit d'un sommeil pesant, entrecoupé de rêves troublés. Denis oublia peu à peu l'incident et les jours se remirent à passer, identiques et divers. L'automne approchait et les marées de septembre qui ont sur les arbres le curieux effet de rougir les feuilles Denis se gavait de mousserons et de bolets, happant parfois quelques pésis à peu près invisibles sur son socle d'écorce et fuyant comme peste l'indigeste langue de bœuf. Les bois, maintenant, se vidaient rapidement le soir de leur promeneur et Denis se couchait plus tôt. Cependant, il semblait que cela ne le reposât guère. Et au sortir de nuits entrelardées de cauchemars, il s'éveillait, la gueule pâteuse et les membres rompus. Même, il perdait de sa passion pour la mécanique et midi le surprenait parfois dans un songe, étreignant d'une patte inerte le chiffon dont il devait lustrer une pièce de laiton vert de grise. Son repos se faisait de plus en plus troublé. Et il s'étonnait de ne pas en découvrir la raison. La nuit de pleine lune, Denis émergea brutalement de son somme grelottant de fièvre, saisi par une intense impression de froid. Se frottant les yeux, il fut surpris de l'effet étrange qu'il ressentait et chercha une lumière. Il eut au fait de brancher le superbe phare hérité quelques mois auparavant d'une Mercedes affolée, et la lueur éblouissante de l'appareil illumina les recoins de sa caverne. Titubant, il s'avança vers le rétroviseur fixé au-dessus de sa table de toilette. Il s'étonna de se trouver debout sur ses pattes de derrière, mais il fut encore bien plus surpris lorsque ses yeux tombèrent sur son image. Dans le petit miroir rond, une figure étrange lui faisait face, blanchâtre, dépourvue de poils, où seuls deux beaux yeux de rubis rappelaient son ancien aspect. Poussant un cri inarticulé, il regarda son corps et comprit l'origine de ce froid de glace qui l'étreignait de toutes parts. Son riche pelage noir avait disparu et sous ses yeux se dressait le corps mal formé d'un de ces hommes dont il raillait d'ordinaire la maladresse amoureuse. Il fallait courir au plus pressé. Denis s'élança vers la malle bourrée de défroques diverses glanées au hasard des accidents. L'instinct lui fit choisir un complet gris rayé de blanc d'aspect distingué auquel il assortit une chemise unie de teinte bois de rose et une cravate bordeaux. Dès qu'il eut revêtu ses vêtements, surpris de garder avec aisance un équilibre qu'il ne comprenait pas, il se sentit mieux et ses dents cessèrent de claquer. C'est alors que son regard éperdu se posa sur le petit tas de fourrure noire épars alentour de sa couche. Et il pleura son aspect disparu. Il se ressaisit néanmoins grâce à un violent effort de volonté et tenta de faire le point. Sa lecture lui avait enseigné bien des choses et l'affaire semblait claire. Le mage de Siam était un loup-garou et lui, Denis, mordu par l'animal, venait réciproquement de se changer en homme. À la pensée qu'il allait devoir vivre dans un monde inconnu, d'abord Denis fut saisi d'une grande terreur. Homme, parmi les hommes, quel danger ne courait-il point ? L'évocation des luttes stériles que se livraient jour et nuit les conducteurs de la côte de Picardie lui donnait un avant-goût symbolique de l'existence atroce à laquelle bon gré, mal gré, il faudrait se plier. Puis il réfléchit. Sa transformation, selon toute vraisemblance, et si les livres ne mentaient point, serait de brève durée. Pourquoi donc ne pas en profiter et faire une incursion dans les villes ? Là, il faut avouer que certaines scènes entrevues dans les bois revinrent à l'esprit du loup sans provoquer en lui les mêmes réactions qu'auparavant, et il se surprit réussi à se passer la langue sur les lèvres, ce qui lui permit de constater qu'elle était malgré tout aussi pointue qu'auparavant. Il alla au rétroviseur, se regarda de plus près. Ses traits ne lui déplurent pas tant qu'il le craignait. En ouvrant la bouche, il constata que son palais restait d'un beau noir et qu'il gardait le contrôle intact de ses oreilles. Peut-être un soupçon trop long et velu même. Le visage qu'il contemplait dans le miroir sphérique, avec son ovale allongé, son teint mat et ses dents blanches, semblait devoir faire figure honorable parmi ceux qu'il connaissait. Après tout, autant tirer parti de l'inévitable et s'instruire utilement pour l'avenir. Un retour de prudence lui fit pourtant chercher, avant de sortir, des lunettes noires dont il pourrait éteindre en cas de besoin l'éclat rubescent de ses châsses. Il se munit également d'un imperméable qu'il jeta sur son bras et il gagna la porte d'un pas décidé. Quelques instants plus tard, muni d'une valise légère et humant l'air matinal qui semblait s'être singulièrement dépeuplé d'odeurs, il se trouva sur le bord de la route et braqua son pouce d'un air décidé à la première voiture qu'il aperçut. Il avait choisi la direction de Paris, instruit par l'expérience quotidienne de ce que les autos s'arrêtent rarement en abordant la côte et plus volontiers dans la descente, car la gravité permet alors un redémarrage facile. L'élégance de Denis lui valut d'être rapidement pris en charge par une personne peu pressée et confortablement casée à la droite du conducteur. Il ouvrit ses yeux ardents sur l'inconnu du vaste monde. 20 minutes plus tard, il débarquait place de l'Opéra. Il faisait un temps clair et frais et la circulation restait dans les limites de la décence. Denis s'élança hardiment entre les clous et prit le boulevard en direction de l'hôtel Scribe, où il se fit donner une chambre avec salle de bain et salon. Laissant sa valise à la domesticité, il ressortit aussitôt pour acheter une bicyclette. La matinée passa comme un rêve. Ébloui, Denis ne savait où donner de la pédale. Il éprouvait bien, caché au creux de son moi, l'envie intime de chercher un loup pour le mordre. Mais il pensait qu'il ne serait point facile de découvrir une victime et voulait éviter de se laisser trop influencer par ce que racontent les traités. Il n'ignorait pas qu'avec un peu de chance, il arriverait à s'approcher des animaux du jardin des plantes, mais réservant cette possibilité pour un tiraillement plus puissant, la bicyclette neuve attirait toute son attention. Cette chose nickelée le fascinait et de plus lui serait bien utile pour regagner sa caverne. À midi, Denis gara sa machine devant l'hôtel. Sous le regard un peu étonné du portier, mais l'élégance de Denis et surtout ses yeux rubis semblaient priver les gens de la faculté d'émettre la moindre remarque. Le cœur allègre, il se mit en quête d'un restaurant. Il en choisit un de bonne apparence et discret. Trop de foule l'impressionnait encore un peu, et malgré l'étendue de sa culture générale, il craignait que ses manières ne témoignassent d'un léger provincialisme. Il demanda qu'on l'installât un peu à l'écart et le service de s'empresser.
Je m'excuse beaucoup, monsieur, mais pourriez-vous nous rendre le service de partager votre table avec mademoiselle? Il y a énormément de monde.
Denis jeta un coup d'œil à la pisseuse et se défrogna du même. J'en serais ravi.
Merci, monsieur.
Si vous me remerciez, vous, que dois-je, moi, sous-entendu, remercier?
La providence classique, sans doute.
et elle laissa aussitôt choir son sac à main que Denis cueillit au vol. Oh, mais vous avez d'extraordinaires réflexes.
Oui.
Vos yeux sont étranges. Ils font penser à... À des grenats.
C'est la guerre.
Je ne vous suis pas.
Je voulais dire que je m'attendais à ce que vous évoquiez le rubis. Et ne voyant venir que le grenat, je conclus aux restrictions lesquelles entraînent immédiatement la guerre par une relation d'effet à cause.
Et vous sortez des sciences politiques?
Pour n'y plus jamais revenir.
Je vous trouve assez fascinant.
Assura platement la demoiselle qui, entre nous, l'avait perdu plus souvent son pucelage qu'à son tour.
Je vous réciproquerai volontiers la chose en la mettant au féminin.
Et ils quittèrent ensemble le restaurant et la coquine confia au loup fait homme qu'elle occupait non loin de là une chambre ravissante à l'hôtel du Presse Purée d'Argent. Venez voir mes estampilles japonaises.
Est-ce prudent? Votre mari, votre frère ou bien quelqu'un de vôtre ne va-t-il point s'inquiéter?
Je suis un peu orpheline. J'ai mis la petite en chatouillant une larme du bout de son index fuselé.
Quel dommage, quel dommage.
Denis crut bien remarquer en la suivant à l'hôtel que l'employé paraissait curieusement absent et que tant de peluches rouges assoupies faisaient différer fortement l'endroit de son hôtel à lui, Denis. Mais l'escalier lui révélait les bas, puis les mollets immédiatement adjacents de la belle à qui il laissa, voulant s'instruire, prendre 6 marches d'avance. Instruit, il pressa l'allure. L'idée de forniquer en compagnie d'une femme le rebutait bien un peu par son comique, mais l'évocation de fausse repose fit disparaître cet élément retardateur et il se trouva bientôt à même de mettre en pratique par le geste les connaissances acquises par l'œil. La belle voulut bien se crier comblée et l'artifice de ses affirmations par lesquelles elle assurait s'élever à la verticale échappa à l'entendement peu exercé en cette matière du bon Denis. Il sortait à peine d'une espèce de coma assez différent de tout ce qu'il avait éprouvé jusqu'ici lorsqu'il entendit sonner l'heure. Tout suffoquant et blême-quant, il se redressa et demeura stupide en apercevant sa compagne, le cul à l'air, sauf votre respect, et qui fourrageait avec diligence dans la poche de son veston.
« Vous voulez ma photo ?»
dit-il soudain, croyant avoir saisi. Il se sentait flatté, mais comprit au soubresaut qui animait l'hémisphère bipartite l'erreur de cette supposition.
« Mais oui ?» Oui, mon chéri, je cherche ta photo.
Denis se renfrogna. Il se leva, alla et vérifia son portefeuille.
Ainsi, vous êtes une de ces femelles dont on peut lire les turpitudes dans la littérature de Monsieur Mauriac. Une putain, en quelque sorte.
Elle allait répliquer. Et comment qu'il la faisait chier et qu'elle s'en cognait de sa viande et qu'elle n'allait pas se farcir un mec pour le plaisir, mais une lueur dans l'œil du loup anthropisé la fit muette au lieu de... Il émana des orbites à Denis, 2 petits pinceaux rouges qui se fixèrent sur les globes oculaires de la brune et la plongèrent dans un curieux désarroi.
« Veuillez vous couvrir et décamper dans l'instant !»
Il eut l'inattendu pour augmenter l'effet de pousser un hurlement. Jamais encore pareille inspiration n'était venue le taquiner, mais malgré son manque d'expérience, cela résonna de façon épouvantable. La demoiselle terrorisée s'habilla sans mot dire, en moins de temps qu'il n'en faut à une pendule pour sonner 12 coups. Et lorsqu'il fut seul, Denis se mit à rire. Il éprouvait une sensation vicieuse assez excitante.
C'est le goût de la vengeance.
Supposait-il tout haut. Denis remit de l'ordre dans ses ajustements, se nettoya où il fallait et sortit. Il faisait nuit et le boulevard scintillait de façon merveilleuse. Il n'avait pas fait 2 mètres que 3 hommes s'approchèrent de lui, vêtus un peu voyants, avec des complets trop clairs, des chapeaux trop neufs et des chaussures trop cirées. Ils l'encadrèrent.
Peut-on vous causer ?
Dit le plus mince des 3, un olivâtre à fine moustache.
De quoi ?
Fais pas le con, fais pas le con hein.
Articula l'un des 2 autres, rouge et cubique.
Entrez donc ici, entrez donc ici.
Denis entra assez curieux. Il trouvait jusqu'ici l'aventure assez plaisante.
Vous jouez au bridge, c'est ça ?
Tu vas avoir besoin d'un, toi, si tu continues, hein, parce que...
Mon chien... Vous venez d'agir avec une jeune fille de façon assez peu correcte.
S'esclaffa Denis.
Il se marre, l'a pas fait. Putain, il va moins se marrer, là.
Il se trouve qu'on s'y intéresse à cette môme.
Denis comprit soudain.
Je vois... Vous êtes des macros.
Tous 3 se levèrent d'un coup.
Ne nous cherche pas.
Et Denis le regarda.
Je vais me mettre en colère. C'est la première fois de ma vie. Mais je reconnais la sensation, comme dans les livres.
Les 3 hommes semblaient déroutés.
Tu penses que tu nous fais peur?
Le 3e causait peu. Il ferma un poing et prit un élan. Comme le poing arrivait au menton de Denis, ce dernier se déroba, happa le poignet et serra. Cela fit du bruit. Une bouteille atterrit sur le crâne de Denis qui scia et recula.
On va te mettre en l'air.
Le bar s'était vidé. Denis bondit par-dessus la table et le cubique. Éberlué, celui-ci béa, mais il eut le réflexe d'empoigner le pied chaussé de daim du solitaire de fausse repose. Il s'ensuivit une brève mêlée, à l'issue de laquelle Denis, le col déchiré, se contempla dans la glace. Une estafilade lui barrait la joue, et un de ses yeux virait à l'indigo. Prestement, il rangea les 3 corps inertes sous les banquettes. Son cœur grondait furieusement sous ses côtes. Il s'arrangea un peu et soudain, ses yeux tombèrent sur une pendule. 11 heures.
Par ma barbe, il faut que je file.
Vite, il mit ses lunettes noires et courut vers son hôtel. Il avait l'âme pleine de haine, mais l'urgence de son départ lui apparaissait. Il paya sa chambre, prit sa valise, sauta sur sa bicyclette et partit comme Fausto Coppi. Denis arrivait au pot de Saint-Cloud lorsqu'un agent l'arrêta.
Dites-moi, vous n'avez donc pas de lumière ?
Hein ? Pourquoi j'y vois ?
Ah, c'est pas pour y voir, c'est pour qu'on vous voit. Ça vous arrive un accident, hein ?
Ah, oui, c'est vrai, mais comment ça marche, cette lumière ?
Vous foutez de moi, là ?
Écoutez, je suis vraiment très urgé, je n'ai pas le temps de me foutre.
Ok, je vois, vous la voulez, la contredanse.
Vous êtes excessivement ennuyeux.
Répondit le loup à pédale.
Bon, ben, vous l'aurez cherché, vous l'avez.
Il commença de sortir un carnet de balles et un stylo bic et baissa le nez un instant.
Votre nom ?
Dit-il en relevant le nez. Puis il siffla dans son tube à son, car il apercevait au loin la rapide bicyclette de Denis qui se lançait à l'assaut de la côte. Denis en mit un coup. L'asphalte ébahi cédait devant sa furieuse progression. La côte de Saint-Cloud fut avalée en un rien de temps. Il traversait la portion de ville qui longe Montretout et tourna à gauche vers le pont noir et ville d'Avray. Comme il émergeait de cette noble cité devant les restaurants Cabassud, il prit conscience d'une agitation derrière lui. Il força l'allure et, soudain, s'élança dans un chemin forestier. Le temps pressait. Au loin, soudain, une horloge annonçait minuit. Dès le premier coup, Denis constata que ça allait mal. Il avait peine à attraper les pédales. Ses jambes lui paraissaient se raccourcir. Au clair de lune, il escaladait pourtant sur sa lancée les cailloux du chemin de terre. Lorsqu'il aperçut son ombre, un long museau, des oreilles droites, et du coup, il prit la bûche, car un loup à bicyclette, ça n'a pas de stabilité. Heureusement pour lui, il avait à peine touché terre que d'un bond, il jaillit dans un fourré et la moto de la police s'écrasa bruyamment sur la bicyclette affalée. Le motard y perdut un testicule et son acuité auditive par la suite diminua de 39%. Denis était à peine redevenu loup qu'il s'interrogea, tout en trottant vers sa demeure, sur l'étrange frénésie qu'il avait saisie sous sa défroque d'homme. Lui, si doux, si calme, avait vu s'envoler par-dessus les toits ses bons principes et sa mansuétude. La rage vengeresse dont les effets s'étaient manifestés sur les trois maquereaux de la Madeleine, dont l'un, hâtons-nous de le dire, à la préfecture, service de Mondaine, avait un poste. Lui, tout ça, Denis, ça lui paraissait à la fois impensable et fascinant. Il hocha la tête. Quel grand malheur que cette morsure du mage de Siam. Heureusement, pensa-t-il, cette pénible transformation va se limiter au jour de pleine lune. Mais il lui en restait quelque chose. Et cette vague colère latente, ce désir de revanche, ne laissait pas de l'inquiéter.
Ainsi s'achève LM des Meufs, 381e émission du nom. Il s'agissait du loup-garou et de Cyrna Bovy. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain, sinon...
Allez, fais des beaux rêves, bébé Schtroumpf. Et à bientôt.